Vous aimez le programme en français? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/SBS French.
Quel plaisir aujourd'hui de recevoir Monsieur Michel Rocard, ancien Premier ministre français, et qui nous visite aujourd'hui dans les studios à Melbourne en tant qu'ambassadeur de l'Antarctique et de l'Arctique. Et je crois que c'est pour ça que vous êtes aujourd'hui en Australie. Bonjour Monsieur Rocard.
Absolument, bonjour monsieur. Je ne suis pas ambassadeur de l'Arctique ou de l'Antarctique. Personne ne vit, il n'y a pas d'électeurs, ils ne peuvent pas se donner d'ambassadeur. Je suis ambassadeur en charge des négociations les concernant.
D'accord, ok.
C'est même le titre exact.
Alors, vous faites un travail très important pour sauver ces deux pôles de la planète et en partie lié aux accords de Madrid.
Largement, oui. L'accord de Madrid était un protocole qui ne concerne que l'Antarctique, auquel s'applique bien le mot que vous venez d'employer, qui est de sauver. L'Antarctique avait été l'objet d'un traité un peu étonnant, signé en pleine guerre froide en 1959, et qui, à la surprise générale, a décidé sa démilitarisation et la neutralisation de toute réclamation territoriale, avec obligation que tout ce qui s'y passe soit conduit en coopération internationale. C'était déjà assez formidable. Ça a surpris les diplomates. C'est un coup d'Eisenhower et de Khrouchtchev, qui étaient deux hommes de paix. Mais quiconque était militaire ou diplomate préparait la guerre chaude devant suivre logiquement la guerre froide. Nous sommes en 59. Et ce coup de tonnerre dans le ciel bleu était suivi en 1991 de la signature d'un troisième protocole qui déclare l'Antarctique terre de science et réserve naturelle, mentionne même qu'elle fait partie du patrimoine de l'humanité et y proclame interdiction de toute activité minière. On a, ça vise aussi bien le gaz que le pétrole, que le fer. Et du coup, l'environnement de l'Antarctique est très largement préservé. Il y a une espèce de police touristique qui surveille les touristes de manière à ce qu'ils ne polluent pas. Vous ne pouvez jeter en Antarctique ni un mouchoir en papier, ni un mégot.
Et quand vous
y allez, quand vous revenez, vous passez vos bottes dans un pédiluve sur le bateau. C'est prodigieux. Et d'une certaine façon, ça apprend aux touristes à respecter la nature. Comportement qu'il ferait bien de ramener chez eux après, parce que même si elle est moins fragile dans les zones tempérées, elle l'est quand même. Donc pour l'Antarctique, le problème mondial, c'est de surveiller la bonne exécution du traité et probablement d'essayer de limiter la croissance exponentielle aujourd'hui du tourisme, qui est quand même un peu pollueur dans sa nature. En Arctique, c'est le contraire. L'Antarctique est un continent couvert de glace d'eau douce, pour 3-4 kilomètres d'épais, en gros. En Antarctique, l'eau, c'est un océan très fermé, il n'y a que de l'eau, ce qui flotte dessus est une glace d'eau salée. Elle fond avec le réchauffement climatique. Rien n'y a été possible pendant les 6000 ans d'histoire connue. Depuis 20 ans, tout devient possible. La recherche scientifique, la guerre, le pétrole, l'activité pétrolière ou gazière, et naturellement la grande navigation commerciale, sans parler de la pêche. Or, il y a 5 riverains seulement autour de l'océan Arctique. Ces riverains sont puissants et furent agressifs de temps en temps.
Et gourmands.
Les deux à la fois, ça va très bien. Les Russes, les Américains, les Canadiens, et en plus petit, la Norvège et le Danemark, qui est toujours suzerain pour le Groenland. Mais le Groenland a déjà un gouvernement indépendant et va vers son indépendance. Si bien que chacun veut faire la paix chez lui, contrôler chez lui la sécurité, le refuge, la récupération des voyageurs accidentés, ils n'en ont pas les moyens. La perspective d'une grande route polaire qui raccourcirait de plus du tiers les routes Europe Nord-Pacifique, Chine, Japon, etc., pour lesquelles il faut passer par le canal de Panama, c'est un intérêt vif, mais personne ne prépare rien et ça va mal.
D'accord. Et donc vous, au jour le jour, votre travail vous amène aujourd'hui, par exemple en Australie, vous parlez de ça, vous avez fait beaucoup de travail avec Bob Hawke.
Alors c'est en effet la signature du protocole qui a sauvé l'Antarctique et dont je viens de vous parler, est due à une espèce de coup de force diplomatique. On avait à Wellington, en Nouvelle-Zélande, en 1988, signé une convention qui valait troisième protocole de ce traité, qui prévoyait les précautions à prendre, les formes, les procédures à respecter pour aller explorer du gaz ou du pétrole en Antarctique. Et deux pays se sont fâchés, deux premiers ministres qui étaient des copains. Bob Hawke, premier ministre d'Australie, et moi, premier ministre de France, nous avons considéré qu'il ne fallait pas signer ça, c'était signé, il ne fallait pas le ratifier, lui donner force, et qu'il fallait relancer une négociation beaucoup plus ambitieuse, puisqu'au lieu de permettre, sous des contraintes assez sévères, mais tout de même de permettre l'exploitation du gaz et du pétrole, on allait l'interdire. Le miracle là-dedans, c'est que notre coup de force a réussi. Mais on s'est conduit comme les bad boys, les mauvais garçons de la diplomatie internationale. On a fait un scandale. Même chez moi, je me suis fait un peu engueuler. Mais enfin, j'étais Premier ministre, ce qui était une position de puissance relative. Et en tout cas, ça a réussi. Alors, ce qui vient de se passer, je suis en Australie parce que nous sommes allés à Hobart pour une belle cérémonie. Elle était sympathique. En fait, c'était un séminaire de travail pour célébrer le 20e anniversaire du protocole, qui a une parenté franco-australienne. La France et l'Australie n'ont dans l'histoire jamais fait quoi que ce soit ensemble. Et le communiqué par lequel nous avons tous les deux annoncé ensemble que nous refusions... Il était à Paris en voyage, Monsieur Hawke.
Diplomatiquement, hein, parce que les Australiens sont venus aider les Français pendant la guerre quand même.
Oui, oui, oui. C'est... Nous n'avons rien fait ensemble qui fût décidé d'un commun accord. Notre présence dans la guerre, nos cimetières sont pleins de types qui voisinent les uns avec
Exactement.
Les autres. Mais il n'y a pas eu d'acte. Et c'est l'unique acte historiquement que nos pays ont fait tout seul et contre tout le reste et ils ont gagné. C'est un très beau précédent. Ouais. Ça méritait d'être fêté. Et en plus, il y a derrière toute une histoire de détails diplomatiques que les scientifiques, les technologues qui travaillent sur l'Antarctique, beaucoup, la base de Hobart est puissante. C'est pour un monstre, enfin c'est un élément de force, ne connaissaient pas. Donc il y a eu quelque chose de sympathique et d'amusant à raconter les coups et à mettre à plat les viols de procédure auxquels Hawke et moi nous sommes été conduits, enfin que nous nous sommes permis. On s'est bien amusés. Mais l'enjeu n'était pas seulement commémoratif. Nous sommes venus rappeler aux autorités australiennes compétentes qu'il est nécessaire d'étendre le nombre des nations qui ont ratifié ce protocole pour lui donner plus de force. Parce qu'il est révocable en 2048. Vous me direz que c'est presque demain matin, mais le pétrole devient si rare que tout le monde a peur et que beaucoup de nations, notamment des nations polaires actives, Chili, Argentine, se disent « ils vont nous casser ça ». Et il y a une grande crainte que le manque de pétrole et le caractère très excessif de son prix ne conduisent en 2048 à renoncer à cette interdiction. Je n'en crois rien pour ma part, parce que je pense que tout le monde oublie qu'en 2048, la planète sera terrorisée, prendre les effets du fait qu'elle ne lutte, qu'elle n'a rien fait de sérieux pour combattre les gaz à effet de serre, donc pour combattre l'effet de serre, et par conséquent, le niveau des eaux sera en train de monter partout beaucoup plus vite qu'il n'est aujourd'hui prévu.
Donc vous pensez qu'en 2048, on aura vraiment réalisé qu'il aurait fallu qu'on fasse quelque chose avant?
En 2048, si nous continuons à ne rien faire contre l'effet de serre, une demi-douzaine de nations membres des Nations Unies auront disparu sous les eaux. Il y a des petites, le Tuvalu, les Seychelles, les Maldives, et puis il y a le Bangladesh, 140 millions d'habitants avec 5 mètres d'altitude en moyenne. Et ceux-là, il aura fallu les écluser ailleurs. Nous aurons des dizaines de millions de réfugiés climatiques. On ne pensera pas à produire davantage de pétrole cette année. Je ne sais pas comment ça sera passé. Mais l'évidence de notre inaction d'aujourd'hui, c'est l'échec de Copenhague, que je suis en train de rappeler. À Copenhague avait lieu, il y a 3 ans, une grande conférence pour améliorer le combat de l'humanité contre l'effet de serre, et nous sommes disputés. Les États-Unis, la Chine ont fait preuve d'un refus de solution commune, en même temps que le monde entier se battait sur qui va payer, les pauvres ou les riches, leur part ou pas, quelle peut être leur part, etc. Non, nous sommes dans une situation mondiale vraiment dangereuse. Nous en sourions, là, tous les deux, en ce moment. Il n'y a pas de quoi.
Non, c'est sûr. Mais vous touchez un vrai nerf, en fait, ici, parce qu'en Australie, c'est une question qui est vive, parce qu'il y a cette introduction ou non d'une taxe dite carbone, et il y a aussi des partis qui réfutent le fait qu'il y ait de l'effet de serre encore. Il y a des gens qui discutent de ça.
Il y en a encore. Ben, faudrait les renvoyer à l'école.
Tout en ayant peur des réfugiés aussi. Donc l'un va aussi avec l'autre. Donc vous pensez que c'est vraiment au cœur du problème, ça?
Le fait qu'il y ait ici ou là des forces politiques, des partis qui nient l'effet de serre est une espèce d'aberration intellectuelle, mais qui relève de l'idéologie. Il cache là derrière le fantasme d'autre chose. On ne comprend pas très bien. Parce que la communauté scientifique a fait son accord. Après 15 ou 20 ans de bataille sur le sujet, l'unanimité est acquise. Il y a un effet de serre, il est massif, il va s'accélérant. Le groupe international d'études sur le climat, qui s'appelle le GIEC, est une création de l'ONU, sur l'ordre du secrétaire général, deux agences, l'Organisation météorologique internationale, On croit qu'elle ne fait que de la météo, elle s'occupe de l'avenir aussi, en termes de climat. Et puis le petit programme des Nations Unies pour l'environnement, on crée ensemble ce GIEC, ce groupe d'études internationales pour le climat. Il publie en gros un rapport tous les 5 ans. Alors on est au 4, on doit attendre le 5e ces jours-ci. Le premier a été horriblement disputé, conflictualisé. C'était même drôle. Une science seigneuriale. La science, c'est quelque chose de très sérieux, c'est très mandarinalisé. On est docteur, on est professeur, on poursuit des grades, et il y a une reconnaissance par les autres. Et donc, les sciences partout sont dirigées par des mandarins. La géologie est reconnue comme science depuis la Grèce antique, en même temps que la physique et les mathématiques, et là, une seigneurité. Et notre fin de XXe siècle a été marquée par l'éruption d'une bande de bobos, comme on dit, généralement barbus, un peu chauves, travaillant sur des critères mal connus et mal étayés, nous mesurant le climat comme si c'était facile, et ils sont mis à créer la climatologie. Colère des géologues, bataille de mandarinards, et les géologues ont tenu le haut du pavé, on est tout simplement sérieux, leurs mesures ne valent rien, etc. Puis petit à petit, leurs mesures se sont mis à valoir quelque chose, des géologues se sont ralliés. La bataille est claire, elle est gagnée maintenant, et nous sommes menacés d'un effet de serre, au terme duquel, dans 2 ou 3 siècles, la vie sera impossible sur la planète. Et en tout cas, un des effets, pas le seul, de loin pas le seul, mais un des effets, c'est de faire élever l'eau des océans par la fonte des grands glaciers d'eau douce reposant sur de la terre ferme. Ceux du pôle Nord, ils flottent, donc le principe d'Archimède veut que le niveau des deux océans ne change pas quand la glace fond. Ouais. Mais toute l'Antarctique a 3,5 km d'épais de glace, la calotte du Groenland au moins 2. Elle suffit, elle toute seule, elle fondrait, élever le niveau des eaux des océans de 7 mètres. Or, plus d'un milliard d'habitants habitent à moins de 20 mètres d'altitude.
Et 7 mètres, c'est 3 étages. Hein.
7 mètres, c'est 3 étages, c'est vite fait. Alors on y va tout droit, et les fous qui nient ça maintenant pour des raisons parfois d'idéologie absurde et parfois de défense d'intérêts, notamment pétroliers, il serait quand même d'intérêt commun de les prendre à leur piège assez vite, mais je ne sais pas si on va y arriver. Mmh. En tout cas, la conséquence, c'est comme il y a des pays où l'influence de tels irresponsables est dominante, nous allons devoir chercher en plus des moyens de prendre des décisions dans le monde qui ne soient pas seulement par consensus. Il y a quelque chose de suicidaire et d'absurde à attendre que tout le monde se mette d'accord pour combattre le feu. Vous imaginez une maison en feu et une délibération des habitants de la maison dehors étant d'accord ou pas sur le fait d'appeler les pompiers. Parce que si on appelle les pompiers, l'eau noiera les meubles et ça fera des dégâts. On ne sait pas très bien, on sait quand même que la contribution à l'effet de serre s'aggrave si on émet de plus en plus de gaz carbonique. C'est le plus volumineux des gaz à effet de serre, mais c'est pas le moins toxique. Le méthane... Alors le méthane, la moitié du méthane produit, c'est la mauvaise digestion des bovins. Le milliard de vaches indiennes pète beaucoup, pardonnez-moi cette vulgarité, et tout ça fait des milliers de tonnes de méthane. Alors le méthane est encore plus actif comme gaz à effet de serre que le gaz carbonique. Il faudrait se débarrasser des deux, mais commençons par le gaz carbonique, c'est le plus volumineux lui. Ça serait déjà pas mal. J'ai été en France, j'appartiens à l'opposition, et pourtant le président de la République m'a choisi, un de ses ministres, m'a choisi pour présider une conférence d'experts, c'est-à-dire de spécialistes de ça dans tous les milieux. Les agriculteurs, les ouvriers, le patronat, la banque... etc. Dans une conférence sur la taxe carbone, dont je suis sorti chaud partisan. Et je m'offre comme conseiller technique aux acteurs australiens qui veulent en savoir plus sur le sujet.
Ça vous fait plaisir d'être revenu en Australie ?
J'aime beaucoup l'Australie. J'ai pendant 5 ans présidé une petite association qui s'était donnée pour but de célébrer dignement le 200e anniversaire du commandant Nicolas Baudin. Le commandant Nicolas Baudin était un des meilleurs marins de Napoléon Bonaparte, lequel allait plus tard perdre la guerre sur mer et a commis en 1800 tout juste la folie d'envoyer un de ses meilleurs marins faire de la cartographie autour de la Nouvelle-Hollande pour savoir si c'était un archipel ou une grande île, au lieu de le garder sur le front. Bref, Nicolas Baudin est l'homme qui a cartographié environ 60% des côtes australiennes, l'ouest de la partie nord, toute la grande façade ouest et l'essentiel de la partie méridionale jusqu'à Encounter Bay. Et ça, c'est une très jolie histoire franco-australienne. À Encounter Bay, le commandant Flinders, qui faisait le même travail de l'autre côté, et le commandant Baudin se rencontrent, s'aperçoivent, savent que leurs nations sont en guerre, devraient pour obéir aux ordres se canonner mutuellement, au lieu de quoi Flinders appelle Baudin à prendre le thé à son bord, à discuter le coup, et commence un échange de données scientifiques entre les deux commandants sur la cartographie de ce qui allait un peu plus tard s'appeler l'Australie. C'est fabuleux. Nos relations sont méconnues. Ça explique pourquoi en Australie, il y a un millier de caps, de baies, de petits ruisseaux, de villages, de sites qui portent des noms français.
Complètement, ouais.
C'est l'enfance de Baudin, tout ça.
Et ça vous fait plaisir quand vous voyez ça, en tant que Français?
Ça me chatouille un peu l'ego. Bon, mais l'important est que ça, c'est créateur d'immense sympathie entre deux peuples et deux histoires.
Et l'Australie vous l'a rendu? Je crois que vous avez eu une médaille.
Je suis commandeur, ça veut dire compagnon chez eux de l'ordre de l'Australie, et je crois bien être, j'étais quand je l'ai été fait, le seul homme politique de l'Europe continentale à atteindre cette dignité. Je suis très fier.
Ouais. Il y a de quoi, en tout cas. Si on revient un peu sur votre carrière, vous avez quand même une carrière qui s'étale sur plusieurs décennies. Aujourd'hui,
oui,
si
je
vous...
le crains. Dites-le, je suis en train de devenir vieux. Bon.
Mais ce que je veux dire, c'est que vous avez quand même fait énormément de choses pour la France, pour les Français. J'ai juste regardé une liste, vous avez créé le RMI, par exemple.
Oui.
Aujourd'hui, c'est des choses qui sont encore en place.
Le RMI a été utilement remplacé par le RSA.
Oui, mais c'était un bon départ quand même, le RMI.
C'est un excellent départ et il a eu un excellent suivi. Martin Hirsch était déjà un travailleur social dans les équipes qui ont produit le RMI. Alors, il était devenu ministre du gouvernement de l'aile conservatrice française et j'étais dans l'opposition. Mais le jour où le RSA a été voté, Martin Hirsch m'a quand même envoyé une grande bouteille de bon vin blanc pour honorer cet anniversaire et cette continuité. Le RMI, nous l'avions pensé comme un secours temporaire entre deux périodes de chômage. Et nous étions un peu outrecuidants. Enfin, moi, pas trop, parce que je n'avais pas guère d'illusions sur le programme économique de la gauche de 1980. Mais le président de la République, les premiers ministres, Pierre Mauroy, Fabius, en avaient beaucoup, et pensaient que nous allions sortir la France du chômage grâce à l'intelligence de nos mesures économiques. Les nationalisations n'ont servi à rien, ça ne s'est pas passé comme ça. Mmh. Et donc le RMI est né sur, au fond, une erreur de diagnostic. Nous voulions couvrir un désastre temporaire dans une vie et donner les moyens... non seulement de survivre, mais de se recycler, de prendre le temps d'apprendre une formation à des périodes entre deux personnes de chômage. Et puis, il s'est mis à stocker de plus en plus des chômeurs qui n'en sortaient plus. Et du coup, les enveloppes budgétaires ont craqué, mais les équipes d'hommes aussi, puisque le RMI est la première allocation dont le versement s'accompagne d'un engagement de faire soi-même un effort pour se resocialiser, pour réapprendre à se lever ce matin, à être propre au travail et chercher du boulot. Et là, les équipes ont craqué. Et puis, nous l'avions interdit aux jeunes, puisqu'il y avait d'autres systèmes d'aide à la recherche d'un premier emploi, une allocation spéciale différente. Et avec la transformation et l'aggravation de la situation sociale en Occident, ça s'appelle la crise économique, hein, sur le long terme, tout ça, il a fallu modifier, en effet, le RMI et le rendre accessible aux très jeunes. Et c'est comme ça qu'il le rendre surtout compatible avec des revenus de petits boulots. Et ces choses étaient nécessaires. Moi, j'étais tout à fait d'accord avec Martin Hirsch. C'est comme ça qu'il est devenu le RSA. C'est la même continuité, la même inspiration de politique sociale française.
Mais quand on est un homme politique, on se rend compte plusieurs années après qu'on a été à la base d'une mesure comme celle du RMI. On a une certaine satisfaction que la mesure n'ait pas été rebootée après un certain moment et qu'on a changé la vie quand même de pas mal de milliers de personnes.
Mais je ne saurais vous le cacher, vous avez bien raison. Mais enfin, ne cherchez pas à me faire donner à nos auditeurs attentifs l'impression que je suis arrogant et sûr de moi ou rien de tel.
Absolument pas.
Mais on n'a pas fait de mauvais boulot, là. Mm-hmm. C'est vrai.
Vous avez été aussi conseiller pendant la dernière élection présidentielle de Ségolène Royal, je crois. Vous avez travaillé avec elle. L'année prochaine, ça va être une élection auquel vous allez peut-être participer avec un œil consultatif, ou cette année, ça va vraiment, enfin, cette fois-ci, ça va être une fois où vous allez la regarder en tant que citoyen français.
Mes rapports avec Ségolène Royal n'ont pas tout à fait eu l'intensité que vous décrivez. Elle m'a demandé, je lui ai remis un épais rapport sur la propriété intellectuelle en matière de logiciel. Donc la liberté d'emploi d'Internet, donc le statut de ce qu'on appelle maintenant le piratage et qu'on cherche à punir, et qui est pourtant dans la logique de la chose. Sujet extrêmement difficile. Je suis en bien meilleur terme et j'ai beaucoup plus confiance dans les deux principaux candidats de la primaire socialiste en ce moment, qui me paraissent avoir davantage le niveau, si vous voulez. Ségolène était une gentille fille, je pense. Il y a un problème de pointure. Il est rempli aussi bien par Martine Aubry que par François Hollande. Je suis lié d'amitié depuis longtemps avec tous les deux. Et par conséquent, j'essaierai de servir à quelque chose.
D'accord. Et ce système de primaire, pour vous, c'est vraiment un vrai modernisme ?
C'est pas bête. On avait 7-8 candidats. Et on a toujours 7-8 candidats. Je veux dire, une coalition politique qui a de la vitalité ne peut pas ne pas en avoir des quantités. C'est pas une critique, ça s'appelle la démocratie. C'est même plutôt merveilleux. Et le choix entre ces candidats, dès qu'il y a un instant qui ne se fait plus par le poignard ou par le poison, il y a progrès de civilisation. Alors, quelle est la meilleure méthode ? Nous avions la méthode la plus générale sur la planète, d'ailleurs, qui consiste à laisser faire des bureaucraties petites d'une douzaine de personnes qui, dans une salle enfumée un soir, décident entre eux et font le chef ou font le candidat. Le monde entier fonctionne comme ça. La primaire, c'est plus transparent, c'est plus élégant, c'est mieux, on n'a pas l'habitude. Le concept est un peu américain. Ça ne transforme pas les Américains en un modèle que nous acceptions de recopier partout, bien sûr. Mais enfin, c'est plutôt une bonne idée.
Et ça semble.
Et on vote, mais voilà. Je vais rentrer pour voter.
Et ça semble avoir en tout cas les effets désirés.
Oui, oui. Vos collègues journalistes, qui sont en général sans pitié, vous connaissez votre propre profession, se mettent à constater qu'après tout, c'était pas bête.
Ouais. Nous, on est des gentils. Hein. On n'est pas.
Il y a des gentils, oui, c'est vrai.
J'ai une dernière question pour vous. Si vous pouviez dire un mot au petit Michel Rocard. Vous êtes content de votre bilan ?
À moitié. Dans mon bilan, il y a la paix en Nouvelle-Calédonie, on n'a pas eu le temps d'en parler.
Mais ça, on peut en parler si vous voulez. Parce que ça,
il y a le sauvetage de l'Antarctique, dont je suis de plus en plus fier tous les jours, au fur et à mesure qu'autour de moi on en prend conscience. C'est un bilan décent. Mais j'ai été un politique à grand niveau, j'appartiens à une génération qui va, quand elle s'en va, laisser le monde en bien pire état qu'on l'a trouvé, avec plein de dommages, plein de dégâts et une absence de traitement. Ma génération n'a pas beaucoup de raisons d'être très fière de son legs. Et son legs va empoisonner à travers la dette, et les pollutions, et le réchauffement climatique, et la vie des descendants. Pas très glorieux.
Vous avez juste dit un mot sur la Nouvelle-Calédonie, ça a été un des grands succès de votre carrière, ça.
Oui, ces choses sont assez simples. La Nouvelle-Calédonie a été conquise par les Français en 1853, je crois, si je me souviens bien. C'est dans l'ensemble de l'Empire français. Il y avait quelques îles dans les Caraïbes, il y avait la moitié de l'Afrique de l'Ouest, il y avait l'Indochine. La Nouvelle-Calédonie est objectivement le territoire où le colonialisme a été le plus brutal, le plus sauvage. Il y a eu des explosions très souvent. Et ça a continué. Et chaque fois, le gouvernement français réagissait par la répression, et accompagnant la répression, un changement législatif du statut local, pour que ça marche autrement, décidé à Paris sans jamais consulter personne. Moi, je suis nommé Premier ministre 5 jours après un massacre. L'armée française avait foncé sur une grotte où une vingtaine de Kanaks tenaient en otage 19 de nos gendarmes pour sanctionner une violation de sa parole donnée par l'État français. Monsieur Pons avait été le ministre des départements d'outre-mer avant, il voulait un nouveau statut, il était embêté que personne n'aille voter, et il avait fait dire, parce que tout le monde se connaît en Nouvelle-Calédonie, il avait fait dire au chef Kanak, vous n'aimez pas ce statut, votez donc non, mais venez donc voter quand même, personne ne vous connaît, on ne vous mesure pas, etc. Et les types qui jusque-là ne faisaient que du boycott, et du boycott offensif. Ils interdisaient l'accès au bureau de vote et on s'est trippé, on se tuait un peu à chaque élection en Nouvelle-Calédonie. C'était grave. Et les chefs kanaks ont fait répondre, après tout, pourquoi pas ? Et vous verrez bien que notre nom est gros, mais il y a une condition. C'est que vous fassiez voter ça un jour. Il n'y a pas une élection nationale dans laquelle on noierait des résultats pour ne plus en parler. Le ministre promet, le premier Jacques Chirac viole la promesse et met ce référendum sur le statut Pons le premier jour de la présidentielle suivante. La colère, d'autant que c'était la seconde promesse violée, la première étant tout aussi solennelle. Et signé Général de Gaulle, la première. On maintiendra la loi d'avant. Formidable. Et du coup, devant cette colère et cette découverte qu'on ne peut pas négocier avec la France, elle ment. Vous vous rendez compte, la honte. Les Kanaks furieux prennent en otage 29 gendarmes. Et l'armée donne l'ordre, enfin l'armée, c'est signé du gouvernement et même du président de la République, l'ordre d'assaut, décide d'envahir cette grotte soi-disant pour libérer les otages. En fait, ils prenaient le risque que les otages soient assassinés dans la bataille. Et c'est d'ailleurs exemplaire que ces 19 Kanaks se soient fait tuer. Il n'y a pas eu un otage mort, sans se retourner vers les otages. L'humanité n'est pas du côté qu'on croit dans ces cas-là. L'affaire est effroyable. Et je suis nommé Premier ministre 5 jours après. Et moi, j'ai l'idée de prendre notre temps et d'envoyer là-bas une mission de personnalité à haute moralité, un évêque, le président de la Fédération protestante de France, s'il vous plaît, un ancien grand maître du Grand Orient et un juge à la carrière pleine de respect pour le droit. Pas pour l'État, pour le droit. On demande à ces hommes d'aller rencontrer tout le monde là-bas et de comprendre à quel prix ils accepteraient de se reparler entre eux d'une part et de reparler avec le gouvernement français. Car des deux côtés, la communauté blanche considérait que nous étions des traîtres et la communauté caldoche considérait que nous étions fils de menteurs. Donc on ne se parlait pas. Et ça a duré 6 semaines. Et non seulement on s'est remis à se parler, mais il est devenu possible de convoquer des corps collectifs et ils ont rédigé la paix ensemble. Je servais d'entremetteur et d'arbitre quand il y avait une petite discussion pointue. C'est une paix négociante, c'est la première. Mmh. Alors elle tient toujours.
Ouais, tout à fait.
Elle tient toujours. Mais mes meilleurs observateurs en France, tout le monde était bien content, c'est à 20 000 km, il n'y a que 200 000 habitants, c'était bien loin. En Australie, c'est juste à côté. Et quand ils ont appris que 2 stagiaires kanak avaient, en utilisant l'argent australien, été faire des stages en Libye, et en Libye, on apprenait plutôt le maniement d'armes que la tenue des bureaux de vote. Nos amis australiens ont compris que c'était peut-être pas si simple. Et j'ai reçu depuis l'Australie une observation technique, bien minutieuse, des détails, qui a renforcé notre confiance mutuelle. Mmh. Donc, je suis bien chez moi quand je suis dans ce pays.
Et ben, en tout cas, ça nous fait plaisir de vous avoir, monsieur Michel Rocard. Merci.
Merci.
C'était un plaisir, puis un plaisir personnel aussi.
Merci. Merci à vous.
SBS en français. Partagez nos rubriques sur Facebook.